Si vous n'aimez pas l'histoire, on tâchera de vous la faire aimer. Si vous l'aimez, on tâchera de ne pas vous dérouter. Les Chemins du Passé, association d'histoire basée à Saint-Symphorien-de-Laye, vous propose de partager des moments de notre histoire en essayant de la rendre vivante, même si la manière de les présenter parfois imaginée, faits et personnages sont véridiques. Micro-histoire sur RVR, présentée aujourd'hui par Claude Janin, Noël Goutenoir et Noé Moutier.
Aujourd'hui, nous vivons une société mobile. Les moyens de déplacement terrestre, du rail à la route en passant par le fluvial, sont nombreux, variés et souvent rapides. Mais de quand datent les routes ? Et avant, quelles étaient les voies empruntées? Depuis quand existent-elles? Aujourd'hui, nous recevons M. Delavoye, expert sur la question.
Bonjour.
Dites-nous, M. Delavoye, depuis quand les routes existent-elles?
En Europe, on peut dire que le premier réseau routier organisé, connu et surtout avéré par des documents, date de l'époque gallo-romaine. Il était structuré entre des voies principales, dénommées voies publiques, et d'autres à vocation plus locale. Citons à ce sujet Pierre Nouvel.
Les sources historiques indiquent que les années 20-19 avant notre ère correspondent dans les provinces gauloises à de profonds remaniements initiés par les plus hautes sphères du pouvoir romain. Ces textes attribuent à Agrippa, alors présente en Gaule, l'essentiel des décisions destinées à offrir aux cités gauloises et aux armées un cadre administratif plus homogène. Parmi ces réalisations, Strabon retient, entre autres, la mise en place d'un réseau routier qui semble avoir eu pour centre la colonie de Lyon nouvellement fondée.
Comme aujourd'hui, entre autoroutes nationales, départementales et communales.
Oui, d'une certaine manière, effectivement.
Et avant ?
Alors avant, c'est-à-dire déjà à l'époque gauloise, dans un passé plus récent par rapport aux Romains, eh bien certainement des routes aménagées devaient-elles exister. Elles ne sont pas faciles à retrouver aujourd'hui, elles sont parfois enfouies sous les voies romaines qui les ont suivies ou ont purement disparu. Les trouvailles archéologiques en révèlent localement des restes, mais il n'y a pas de documents sur les tracés. On peut toutefois supposer, par les récits de l'époque romaine évoquant les déplacements, que ce soit les déplacements de troupes ou de marchandises, que ces chemins gaulois existaient. Citons, par exemple, Paul-Marie Duval dans son ouvrage sur les voies gallo-romaines.
À l'époque gauloise, l'étain britannique parvenait de l'embouchure de la Seine à Marseille en 30 jours. Hannibal traversa les Pyrénées, le Languedoc et la Provence par les Alpes, avec ses éléphants à raison de 37 km par 24 heures. César, en 8 années de campagne, ne mentionne qu'une seule construction de route lors de la bataille de Lutèce, une seule construction de pont sur le Rhin. On le voit faire 75 km en 24 heures en Limagne, 45 entre Reims et Soissons. Si les légions et les armées gauloises purent accomplir tant de déplacements, souvent rapides, c'est que la Gaule était munie de routes suffisamment larges et solides qui traversaient le fleuve à gué ou sur des ponts.
Certes, mais si la construction de routes a répondu à un besoin, comment se sont déplacés les hommes avant qu'elles n'existent ? En clair, comment faisaient les hommes dits préhistoriques ?
Une chose est sûre, l'homme s'est toujours déplacé, et la manière dont l'Homo sapiens s'est répandu sur la planète en est une preuve, s'il devait y en avoir une. Pour autant, il est très peu probable qu'au temps proto-historique, il y ait eu des routes construites et aménagées. Tout au plus, devait-il y avoir des sentiers consécutifs à la fréquence des passages à pied.
Mais leur tracé était-il établi ?
Alors si au XXe siècle, les Français se fiaient à bison futé, il est fort probable que les premiers hommes, eux, se soient fiés aux sangliers ou aux cerfs.
Ah, vous êtes trop énigmatique, là.
Énigmatique, non. Juste une boutade. Et Pierre Fustier, dans son ouvrage « La route », décrit très bien comment probablement les hommes proto-historiques tracèrent leur premier chemin et se frayèrent ainsi leur premier passage dans la nature. Citons-le. L'homme paléolithique, ayant passé le gué où il a guetté son gibier et lui aussi étanché sa soif, aura le choix entre la piste de l'hippopotame et du sanglier qui le conduiront vers le marécage où il pourra édifier sa hutte de pêcheur ou celle frayée par l'éléphant, mangeur de branches ou le brutal rhinocéros, durci par les sabots innombrables des cervidés et parcouru sans cesse par la quête des carnassiers, celle-ci le conduira vers les pâturages des hauteurs. Il ne faut pas penser que les hommes aient apporté de grandes modifications à ces tracés animaux. Bien que possesseurs d'outils rudimentaires et surtout de feu, ils n'ont certainement pas cherché à modifier ces pistes qui sont pour eux de précieux guides pour orienter leur chasse. Ces pistes ne s'effaceront d'ailleurs pas malgré la luxuriance de la végétation causée par les pluies torrentielles. Pourquoi ? Imaginons l'attitude du piéton qui, pour progresser d'un pas, doit relever le pied, placer en arrière et le porter en avant en le laissant retomber avec tout le poids de la charge qu'il porte. Il se produit alors un véritable tassement, un véritable pilonnement qui durcit la terre, qui durcit rapidement le sol, faisant ainsi le chemin.
Ainsi, y eut-il des sentiers de crête et des sentiers de vallée ou de plaine ?
C'est fort probable. Plusieurs options sortent, et les sentiers de plaine ou de vallée devaient être utiles pour suivre ou approcher les cours d'eau. Par contre, ils devaient être difficiles à emprunter dans les lieux humides et ils devaient être difficiles de s'y repérer. Les chemins de crête, eux, nécessitaient peu de travaux. Certes, certaines pentes devaient être difficiles à gravir. Mais la position sommitale était plus sûre et il devait être plus facile pour se repérer dans le paysage depuis les sommets, comme le dit Duval.
C'est une voie de hauteur, raison de rapidité toujours, de sécurité aussi, car d'en haut, la vue porte plus loin. De solidité et d'économie enfin. Le flanc du coteau, la hauteur, échappe aux éboulis, aux berges et aux bas-fonds.
Tout ça paraît logique.
Oui, mais restons prudents. Car même si nous essayons de nous mettre dans la peau et dans la tête des premiers hommes, gardons à l'esprit que nous le faisons avec nos regards d'aujourd'hui, qui ne sont pas neutres et objectifs.
Et les hommes ne se déplaçaient-ils que très localement ?
Oui, on peut le penser. On peut penser notamment qu'ils devaient se limiter au quotidien, au territoire de chasse où ils pouvaient subvenir à leurs besoins. Mais il existait certainement aussi des trajets beaucoup plus longs qui permettaient d'approvisionner les tribus en sel, en ambre, en silex. Ainsi, les quelques 30 000 outils de silex qu'Edmond Dupont a compté dans une seule grotte de la vallée de la Lesse, entre la Meuse près de Nabure, proviennent des couches de craie de Champagne, ce qui représente un trajet de 150 km au moins à travers les régions boisées de l'Ardenne. Dans ces déplacements au long cours, les fleuves ont dû certainement aussi jouer un rôle important, car lorsqu'ils le pouvaient, ils devaient utiliser les moyens de flottement rudimentaires. Les quantités transportées ainsi n'excédaient pas, on peut le penser, les forces des colporteurs qui empruntaient successivement les pistes locales reliées par ce que les naturalistes appelaient les anastomoses. Il y eut toujours dans l'humanité de ces hardis aventuriers qui payèrent souvent de leur vie les trajets immenses qui les mettaient en contact avec les diverses espèces d'hommes dont ils furent les actifs.
Et encore des traces ?
On peut penser que les premiers chemins gaulois, eux-mêmes parfois repris par les voies romaines, ont suivi certains des premiers tracés des sentiers proto-historiques, que l'on appelle aussi préhistoriques. Ainsi, dans notre territoire, devait-il y en avoir le long de la Loire ou dans les vallées du Rhin et du Gand. Mais aussi, d'autres chemins devaient suivre les crêtes des collines de Violet-Annelise et Roanne, repris bien plus tard par le chemin de Sayette, ou encore les lignes de crête allant du Pain-Bouchain à l'hôpital Surin, où des tronçons de voies romaines ont été identifiés.
Si je comprends bien, les premiers passages humains se sont faits pas à pas.
Tout à fait. Mais ils ont montré la route, si l'on peut dire, aux aménageurs qui les ont suivis.
Merci, monsieur Delavoye, et bonne route pour rentrer chez vous.
Merci et au revoir.
Microhistoire sur RVR, présentée aujourd'hui par Claude Janin, Noël Goutenoir et Noé Moutier.